cornes rouges, fourche, queue pointue. Le stéréotype du diable, comme une sorte de figure caricaturale, n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Satan le diable est un être spirituel puissant qui exerce une influence importante sur le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'un simple symbole du mal ou d'une simple représentation abstraite du péché ou de la tentation. Satan est une entité réelle, vivante et personnelle qui s'efforce de résister au plan de Dieu, de corrompre la vraie foi et de détruire l'humanité. Pourtant, malgré tout ce que les gens savent ou pensent savoir sur le diable, une question se pose inévitablement. Nous y répondrons aujourd'hui. Rejoignez-nous dans cet épisode du Monde de Demain où nous posons et répondons à la question « D'où vient Satan ?» Bienvenue au Monde de Demain où nous vous aidons à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir d'où vient Satan, le diable. Et nous ne ferons pas de suppositions ou d'hypothèses. Nous plongerons directement dans la parole de Dieu pour lire sa réponse, qui, en réalité, est la seule réponse qui compte. Avant de répondre à notre question d'aujourd'hui, nous devrions peut-être aborder une question plus large. Satan, le diable, est-il réel? De plus en plus, les gens disent non. En juillet 2023, The Hill a fait état d'un sondage Gallup demandant aux Américains s'ils croyaient en certaines idées ou en certains personnages ancrés dans la religion, tels que Dieu et les anges. Les résultats ont montré que la croyance en l'existence de ces êtres a diminué aux États-Unis de manière relativement constante depuis plus de 20 ans, atteignant son niveau le plus bas dans toutes les catégories en 2023. La croyance dans le diable est la plus faible de toutes les catégories, avec seulement 58%. Plus de 4 Américains sur 10 pensent que Satan le diable n'est pas réel. Et je vous garantis que le diable préfère qu'il en soit ainsi.
Ainsi, il lui est bien plus facile d'influencer la société dans tous les domaines. Divertissement, éducation, politique, gouvernementale, science, religion et autres, si nous pensons qu'il n'existe pas de prime abord. Alors comment savoir si le diable existe-t-il?
En se tournant vers la parole de Dieu. Car si quelqu'un sait si Satan est réel ou non, c'est bien le Dieu de la Bible, le Créateur du ciel et de la terre. En effet, si le diable est un être créé, et il est, comme nous le verrons dans quelques instants, c'est Dieu qui le créa.
Ou du moins, l'être qui est devenu le diable. Reportez-vous aux Écritures qui représentent la pensée en blanc et noir de Dieu,
et voyons ce qu'il a inspiré dans ces pages, pour nous enseigner au sujet du très réel Satan, le diable. Comme nous vous le répétons régulièrement ici au Monde de Demain, ne vous contentez pas de nous croire, croyez la Bible. Et la Bible est remplie d'avertissements sur le diable, des avertissements que franchement peu de gens croient, y compris, croyez-le ou non, la plupart de ceux qui se considèrent comme des chrétiens. Lisons quelques-uns de ces avertissements. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 9, l'apôtre Jean parle d'une guerre à venir dans le ciel et décrit Satan d'une manière qu'il nous faut comprendre. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Cela nous apprend plusieurs choses. Par exemple, il y a des anges déchus qui choisirent de suivre Satan. Nous en parlerons plus tard dans notre émission. Mais nous apprenons aussi que Satan le diable a séduit le monde entier. Mes amis, croyez-vous ce que dit la Bible ou non?
Si oui, alors vous devez accepter que lorsque Dieu dit dans sa parole que le diable a séduit le monde entier, c'est bien cela qu'il entend. Le monde entier comprend la plupart des gens qui nous entourent, y compris nous, à un moment donné de notre vie.
Il est facile de conclure « Non, ça ne peut pas être moi, je crois en Jésus, je suis chrétien ». Cela pourrait convenir si le diable se présentait toujours sous une forme démoniaque, mais ce n'est pas le cas.
Franchement, Satan imite Jésus-Christ pour convaincre ceux qui sont séduits qu'ils marchent sur les traces de Jésus.
Voyez les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, où il explique comment le diable et non Jésus-Christ se cache derrière de nombreux ministères dits chrétiens. Il le dit clairement. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pas affublé d'une cape rouge, d'une moustache de méchant et d'une fourche, il se déguise plutôt en ange de lumière. Il est le père du mensonge et de la séduction. Lisez la description qui en est faite dans Jean chapitre 8 et verset 44, où Jésus s'adresse aux chefs religieux de son époque et les réprimande. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable a vraiment séduit le monde entier. Dans 2 Corinthiens 4 verset 4, l'apôtre Paul l'appelle « le Dieu de ce siècle ». Et à 3 reprises dans le livre de Jean, Jésus-Christ lui-même appelle Satan « le prince de ce monde ». Cela vous choque-t-il ? Luc 4 verset 6 l'explicite. Au cours de la tentation de Jésus, le diable offre au Christ tous les royaumes du monde, car ils lui appartiennent si, et seulement si, Jésus veut bien l'adorer. Pourtant, Jésus ne transige jamais avec le diable sur ce point, ni ne lui dit « Satan, tu n'as pas l'autorité de le faire », bien au contraire. Comment Satan en est-il parvenu à détenir une telle autorité dans le monde ? Pourquoi Dieu le permettrait-il ? La première interrogation que nous devrions aborder avant de répondre à la question « D'où vient Satan ?» est de savoir si Satan fut créé ou non. Certaines philosophies ou religions, comme le zoroastrisme, affirme que le bien et le mal coexistent éternellement et que Dieu et le diable doivent en quelque sorte coexister pour toujours en tant que représentants de ces deux forces. La Bible, en revanche, révèle que cela n'a aucun sens. Dieu est le Créateur et tout ce qui existe, tant dans le domaine spirituel que physique, est venu à l'existence parce qu'il fut créé par Dieu, par les deux personnages que nous appelons aujourd'hui Dieu le Père et Jésus-Christ. En fait, Éphésiens 3, verset 9, nous dit que Dieu le Père créa toutes choses par Jésus-Christ. Dieu créa également les anges. Dans le psaume 104, dans lequel le roi David loue Dieu pour les nombreux aspects magnifiques de sa création, le poète guerrier écrit au verset 4 « Dieu fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu ». En fait, la Bible parle de la création d'un ange en particulier dans Ézéchiel et au chapitre 28. Dans ce chapitre, Dieu inspira le prophète Ézéchiel à prononcer une prophétie contre celui sur le trône de Tyr. Mais comme les versets l'indiquent clairement, l'accent est en fin de compte mis non plus sur l'être humain qui dirige la nation, le prince de Tyr, mais sur la puissance spirituelle derrière le trône, l'être angélique qui était le véritable roi de Tyr. Lisons en commençant par le verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. » Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ésaïe 14, verset 12, qualifie cet être d'astre brillant, Lucifer, et c'est lui qui devint l'ange déchu, Satan le diable. Mais remarquez dans Ézéchiel chapitre 28 qu'il s'agit clairement d'une création remarquable. Il est clair que Dieu le créa sage, beau, habile et intègre, ou parfait dans ses voies. Mais il arriva un temps où l'iniquité, c'est-à-dire le péché, se trouva en lui. La nature de ce péché est abordée plus en détail dans Ésaïe chapitre 14. Mais d'abord, prenons le temps d'examiner ce passage d'Ézéchiel, parce qu'il répond à des questions importantes que beaucoup de gens se posent au sujet de Dieu et du diable. Par exemple, certains se demandent, si le diable est si mauvais, pourquoi Dieu le créa-t-il ? Pourquoi Dieu créerait-il un ange si mauvais ? Nous voyons ici dans Ézéchiel que Dieu n'a rien fait de tel. Dieu ne créa pas le diable comme une sorte d'ennemi maléfique à tout ce qui est bon. Il l'a créé merveilleux, glorieux et intègre. Regardez à nouveau. Ézéchiel écrit qu'avant que l'iniquité ne soit trouvée en lui, Lucifer était le sceau à la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Il était même un chérubin protecteur aux ailes déployées sur le trône de Dieu et était intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé. Dieu ne créa pas une incarnation du mal, il créa quelque chose de bon et de beau. Toute affirmation selon laquelle Dieu aurait créé quelqu'un de foncièrement mauvais à dessein est erronée selon la Bible. Dans Apocalypse 15 et au verset 3, nous voyons un cantique interprété par les saints ressuscités et glorifiés à la fin de cette ère, disant quelque chose d'important à propos de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. » Oui, ses œuvres sont grandes et admirables, ses voies sont justes et véritables. Il ne créa pas un Satan maléfique. Lucifer fut créé beau et avec le potentiel de faire de bonnes actions. En fait, la Bible ne dit-elle pas la même chose de nous? Dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 10, Dieu nous dit à vous et à moi, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, vous et moi avons été créés pour de bonnes œuvres. Cependant, l'histoire de l'humanité, et si nous sommes honnêtes, même l'histoire de nos propres vies, révèle que le fait d'être créé avec le potentiel de faire de bonnes œuvres et le fait de choisir de faire ces bonnes œuvres sont deux choses très différentes. Lucifer fut créé avec la mission d'accomplir de bonnes œuvres, mais comme l'indique le passage d'Ézéchiel, l'iniquité a été trouvée chez lui. Quel péché s'est donc-il trouvé en Lucifer pour l'abaisser à ce point? Qu'est-ce qui a pu faire qu'un être beau, parfait, doté d'une telle sagesse et d'une telle majesté, comme l'était cet être angélique, devienne l'amer et démoniaque Satan le diable, complètement corrompu et résolu à détruire, s'il le pouvait, le plan de Dieu et le peuple de Dieu? La Bible présente le diable pour la première fois dans Genèse 3, lorsqu'il se manifesta comme un serpent et incita nos premiers parents à pécher dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que dès le jardin d'Éden, il était déjà l'adversaire. Pourtant, nous lisons aussi qu'il n'a pas toujours été ainsi et qu'à un moment donné, l'iniquité s'est trouvée en lui. Nous lisons qu'au début de sa création, il était intègre, parfait et beau. Qu'est-ce qui le transforma? Eh bien, si l'on peut le résumer en un seul mot, ce serait l'orgueil. Au 1er siècle, l'apôtre Paul conseilla à Timothée de nommer des hommes à des postes d'autorité dans l'Église, en stipulant que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Oui, même le plus grand des archanges fut corrompu par l'orgueil. Ceci est expliqué dans Ézéchiel chapitre 28 et verset 17, où, s'adressant au diable, Dieu dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. »
Le DVD gratuit d'aujourd'hui, « L'occultisme et le monde des esprits », donne beaucoup plus de détails sur les anges et les démons, mais pour l'instant, je souligne simplement que Dieu créa les anges comme des entités ayant le libre arbitre. Comme les êtres humains, ils peuvent choisir le bien ou le mal pour eux-mêmes.
En fait, les Écritures parlent d'anges qui défièrent Dieu et abandonnèrent la mission qui leur avait été confiée. C'est ce que l'on peut lire dans Jude 1 et au verset 6. Par exemple, qu'il, Dieu, a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure.
Nous en apprendrons davantage sur leur demeure dans un autre passage que nous lirons dans un instant.
Mais tout d'abord, notons que l'apôtre Pierre fit référence à ces anges dans 2 Pierre chapitre 2 et au verset 4. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, ou en grec Tartarus, un état de restriction, et les réserve pour le jugement. Dans le cas de Lucifer, son orgueil le conduisit à être insatisfait du poste qui lui était assigné et organisa une rébellion contre Dieu lui-même et le royaume des cieux. Cette rébellion est relatée dans Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Remarquez aussi un aperçu de la demeure des anges à laquelle Jude fait référence. Lorsque Lucifer décida d'attaquer le trône de Dieu, où se trouvait-il à ce moment-là? Lisez attentivement le verset 13. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Et au verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues. » Or, si vous montez au-dessus des nuages, c'est pour abandonner votre responsabilité qui se trouve en dessous de vous, ici-bas. Avant la création des êtres humains, ce monde appartenait à Lucifer et aux anges qui étaient sous sa responsabilité. C'est pourquoi il dit à Jésus-Christ dans Luc 4 et au verset 6 que les royaumes de la terre et leur gloire lui avaient été confiés. C'était le domaine de responsabilité qui lui fut attribué et c'est le diable que Jésus remplacera à son retour. La rébellion de Lucifer dévasta la terre, la laissant comme cela est relaté dans Genèse 1 et au verset 2, informe et vide. Lucifer n'était plus l'astre de lumière, mais Satan l'adversaire. C'est ainsi que Lucifer se transforma en Satan. Nous avons examiné les origines de Satan et lu les passages des Écritures relatifs à sa rébellion contre Dieu. Une rébellion dont Apocalypse 12, versets 3 et 4, suggère qu'elle entraîna un tiers de tous les anges. Aujourd'hui, lui et les anges déchus, qu'il corrompit, sont ceux que nous appelons les démons et les mauvais esprits. Nous avons également noté que la Terre lui fut confiée comme étant une sphère relevant de sa responsabilité. Cela explique pourquoi Jésus n'était pas en désaccord avec lui lorsque le diable lui dit que la puissance et la gloire de tous les royaumes de ce monde lui furent données, pourquoi Jésus l'appelle à trois reprises dans le livre de Jean le prince de ce monde, et pourquoi Paul l'appelle le Dieu de ce siècle, comme nous l'avons noté plus tôt dans l'émission. Cela signifie-t-il que Dieu a abandonné la terre au diable pour toujours? Pas du tout. En fait, dans 1 Jean 3 et au verset 8, l'apôtre Paul écrit un objectif très important du premier avènement de Jésus. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. En agissant dans le cœur des chrétiens convertis, engendrés par l'Esprit, et en vivant encore sa vie d'obéissance aux lois de Dieu en eux et à travers eux, Jésus continue à détruire les œuvres du diable. Et lorsqu'il reviendra, le Christ glorifié fera un pas de géant pour libérer l'humanité toute entière de l'influence du diable. Cette étape est décrite dans Apocalypse chapitre 20. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pendant ces 1000 ans, le monde sera transformé en paradis. Comme le décrit Ésaïe, pendant cette période merveilleuse, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Même si, comme le dit Apocalypse 20, il doit être libéré pour une courte période à la fin du millénium, son sort ultime sera l'étang de feu, où il ne pourra plus jamais influencer quiconque. Dieu résoudra définitivement le problème de Satan le diable. Mais nous n'avons pas à attendre 1000 ans, nous n'avons même pas besoin d'attendre un jour, nous pouvons commencer dans nos propres vies d'ores et déjà à laisser Jésus-Christ vivre en nous, lui qui détruit les œuvres du diable, en acceptant de rechercher les lois et les voies de Dieu en toutes choses, en obéissant à ses commandements et en demandant à Dieu, le Père et à Jésus-Christ, l'aide dont nous avons besoin pour le ressembler davantage. En leur demandant la force d'ouvrir les yeux sur des vérités inconfortables, sur nous-mêmes, nos croyances et nos pratiques et notre foi, plutôt que d'accepter des mensonges. Pour ceux qui cherchent l'aide de Dieu de tout leur cœur, en se détournant de leurs péchés et de leur désobéissance aux lois de Dieu, et en se tournant vers l'obéissance, la soumission à la volonté et à l'autorité de Dieu et de Jésus-Christ sur leur vie, soyez assurés que les oreilles de Dieu sont ouvertes à de telles prières.